CFM en Tarn-et-Garonne, le mag.
CFM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce mag du pays Midi-Quercy où aujourd'hui on vous proposera une séance de conte en balade dans une grotte mystérieuse. Plusieurs séances sont organisées tout cet été par les deux conteurs Marco et Naémie. La prochaine, c'est ce dimanche et ils nous en diront bien plus après la chronique. Les circuits courts, bonjour pour tout de suite. Dans le cadre du PAT, le projet alimentaire du territoire dont elle est chargée de mission, Marie Brandy nous fait rencontrer tous les mois un producteur local, une initiative ou une structure qui rentre dans les ambitions du PAT, c'est-à-dire conforter et soutenir les circuits courts sur le territoire, valoriser la gastronomie et les patrimoines alimentaires du pays Midi-Quercy, favoriser le lien entre alimentation et santé, favoriser l'autoproduction des habitants par le jardinage et la cuisine, et initier une forme de pérennité de la dynamique agricole sur le territoire du PETR du pays Midi-Quercy. On confie tout de suite le micro à Marie de Brandy, chargée de mission du projet alimentaire territorial du pays Midi-Quercy pour la chronique. Les circuits courts, bonjour.
Les circuits courts, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec l'ADR, l'Association de développement de l'économie agricole rurale. Donc c'est un partenaire du projet alimentaire Pays Midi-Quercy. Nous allons parler aujourd'hui des actions qui sont menées dans le cadre de ce projet alimentaire, là, des toutes nouvelles actions qui ont été construites récemment. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes qui Mathilde ?
Donc moi je suis animatrice agriculture paysanne au sein de l'ADR du Tarn-et-Garonne.
Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer donc quel est ce nouveau projet donc qui porte sur une filière en particulier? Expliquez-nous tout ça.
Donc c'est un projet qui va être plus centré sur la filière ovin-caprin, élevage de brebis et de chèvres, on va dire. Donc que ce soit lait ou viande, donc les petits ruminants. Donc nous, on a axé un petit peu, on avait envie de développer cette filière parce que notre association accompagne des agriculteurs et agricultrices qui s'installent. Et on a remarqué que c'était une filière qui était en développement avec de plus en plus de personnes qui voulaient s'installer sur ces thématiques-là. Et il y avait un besoin un petit peu de mise en réseau et d'accompagnement sur des sujets un petit peu techniques. Donc là, l'idée, ça serait de créer un groupe d'échange de pratiques avec également une montée en compétences, surtout sur une thématique sur les pâturages des prairies naturelles. Donc il y a un peu aussi le lien avec des caractéristiques environnementales pour la préservation de ces prairies naturelles, mais également dans un souci d'alimentation des troupeaux.
Voilà, c'est pas des troupeaux qui sont dans des bâtiments, c'est vraiment de l'élevage en extérieur qui se développe. Alors c'est des nouveaux éleveurs. Parce que souvent, on peut penser que il y a peu d'installations d'élevage, mais pour le coup, ici, c'est en Tarn-et-Garonne, il y a de l'installation sur de l'élevage en extérieur, comme ça, en ce moment.
Alors oui, il y en a. Après, il y en a aussi en élevage de bâtiments. Mais là, l'idée, en fait, de ces agriculteurs, de ce groupe-là, c'est de valoriser au maximum les ressources fourragères, donc les prairies extérieures. Et aussi d'apporter, d'avoir au maximum du coup des animaux qui utilisent ces ressources-là, quoi. C'est leur objectif de ces personnes-là qui souhaitent développer cette agriculture.
Alors en quoi vont consister justement ces actions sur les pratiques agroécologiques et les prairies ?
Alors là, on a par exemple deux actions qui vont être prévues. Donc avec, on est accompagné par une experte. Qui est une experte sur tout ce qui est gestion des espaces naturels en élevage. Et là, on va avoir des actions sur, sur gérer le pâturage et la fauche dans un système herbager. Donc, comment peut-être moins faucher et donner plus de l'alimentation sur pied, donc en extérieur. Et on va avoir aussi une deuxième journée de technique où on est toujours accompagné par cette experte, Sarah Mihout. Où là, on va essayer de comprendre le système, les systèmes chez les agriculteurs pour raisonner leur calendrier de pâture. Donc en fait, ces journées, elles sont vraiment comprendre un petit peu les ressources que les agriculteurs ont dans leurs prairies et pouvoir les valoriser au maximum selon leur système et leur objectif de production.
Parce qu'en fait, ça leur permet aussi de moins acheter de nourriture pour leur bétail. C'est ça aussi l'idée ?
Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces exploitations soient résilientes, effectivement, et puissent valoriser au mieux les prairies qu'elles ont sur place. Et effectivement, du coup, être moins dépendante à l'achat de fourrage extérieur, de foin extérieur, par exemple, en cas de sécheresse, de pouvoir un peu mieux comprendre quelles prairies on peut utiliser à quel moment. Entre guillemets, voilà, en fait, c'est toute une prise en compte de ces prairies et de ce qu'elles apportent, à quel moment, et comment est-ce que je les utilise dans mon alimentation, mon troupeau.
Super. Et donc, quand vont avoir lieu ces actions ?
Donc là, on a une première journée qui est en juillet. Donc là, ça va être une journée qui va commencer à 10h et terminer à 15h. En fait, c'est pas sur la journée entière. Et une deuxième journée qui sera plutôt en fin d'année 2026, donc octobre-novembre. Et l'idée de cette journée, c'est aussi d'avoir des moments d'échange de pratiques. Parce que la vision de ces pâtures et tout ça, ça met du temps en fait à prendre. Donc en fait, l'idée, c'est aussi que les agriculteurs et agricultrices qui participent à ces journées continuent à s'exercer et à échanger ensemble pour monter en compétences tout au long du projet, mais à long terme aussi de leur vie d'éleveur et éleveuse.
Oui, parce que j'imagine qu'ils sont souvent peut-être isolés sur leur ferme, et là ça permet de mettre aussi un peu de réseau et d'interconnaissance entre éleveurs.
Oui, exactement. Enfin, l'une des particularités de l'ADR, l'une de nos missions principales, qui est d'installer et de transmettre les fermes, mais aussi d'accompagner les éleveurs et éleveuses et agriculteurs et agricultrices dans leur vie agricole, et également de les mettre en lien sur leur territoire pour qu'ils fassent du réseau, quand ils viennent de s'installer, qu'ils ne connaissent pas forcément tout le monde, on a envie qu'ils soient bien intégrés sur le territoire. Et oui, donc du coup, faire du lien, c'est très important pour qu'ils puissent échanger des pratiques, mais pas que, aussi pour pouvoir échanger des produits, et voilà, créer du lien sur le territoire.
Donc ça, c'est le premier volet, et après, il y a un second volet.
Et oui, effectivement, on a un second volet. Là, ce volet, il est beaucoup plus basé sur la commercialisation et notamment comment valoriser les coproduits au vin caprin.
C'est quoi des coproduits ?
Ah oui, pardon, les coproduits, donc ça va pas forcément être le produit que va produire, du coup, par exemple, en ovin lait, on a la production du produit laitier. Après, on va avoir tout un tas de produits comme le petit lait qui peut être valorisé de manière différente. Et là, l'idée, c'est de sortir du coup un revenu supplémentaire pour les exploitants, que ce ne soit pas une sorte de déchet, entre guillemets, enfin, qu'ils puissent le valoriser. Et voilà, l'idée, en fait, c'est comment valoriser ces produits-là. Ou par exemple, la viande de chevreau, donc le chevreau, le petit de la chèvre, quand on est en exploitation caprin, donc chèvre laitière. Voilà, le chevreau, comment est-ce qu'on le valorise au mieux et pour pouvoir apporter une meilleure valeur ajoutée à ces fermes.
La laine aussi ?
Effectivement, la laine est un coproduit très intéressant parce que les éleveurs de brebis ont une quantité de laine importante sur les exploitations et la valoriser. Donc aujourd'hui, les circuits de valorisation de la laine sont de moins en moins, ils ne sont pas très présents. Et pourtant, il y a beaucoup de manières de l'utiliser et de la valoriser.
Et donc, je complète les actions de l'ADR, parce qu'effectivement, ces actions-là rentrent dans un maillage avec d'autres acteurs de l'agriculture, donc notamment la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et la Fédération départementale des CUMA, donc les comités d'utilisation du matériel agricole. La Chambre va intervenir elle aussi sur les rations alimentaires et les techniques culturales, avec l'intervention d'une conseillère technique petit ruminant à l'automne 2026, et également un travail sur les sols à l'hiver 2027. Et on aura aussi donc la FDCUMA qui va produire un itinéraire technique pour travailler sur la mutualisation de la filière. Donc, notamment sur la, par rapport à la mécanisation, aux mécanisations possibles pour alléger le travail des agriculteurs et pour identifier les perspectives de travail collectif qu'il peut y avoir autour de la filière ovin-caprin. Et donc tout ce projet-là rentre dans le cadre d'un projet global qui s'intitule « Une gestion circulaire et durable des ressources pour l'agriculture en Pays Midi-Quercy ». Et donc deux autres projets viennent se greffer. C'est un travail autour des ressources en matière organique, donc pour récupérer de la matière organique locale, déchets verts et divers autres produits verts qui ne seraient pas utilisés, qui pourraient retourner au sol et éviter également des intrants, boucler en fait une boucle écologique sur le territoire. Et aussi un travail sur la transmission installation autour du tutorat qui sera également mené par l'ADEAR et la FDQMA aussi. Voilà, donc toutes ces actions-là vont avoir lieu sur les années 2026-27. Vous pouvez vous rapprocher de l'ADEAR, de la Chambre et de la FDQMA pour en savoir plus, ou du PETR Pays Midi-Quercy qui finance ces actions avec les subventions du FEADER, du Fonds Économie Agricole, qui est européen, de la région Occitanie et l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Merci beaucoup Mathilde, à bientôt.
Merci Marie.
Et un grand merci à Marie Brandy, la chargée de mission du projet alimentaire territorial du pays Midi-Quercy, pour cette chronique. Les circuits courts, bonjour, c'est tous les troisièmes lundis du mois sur CFM Radio et quand vous voulez sur le site cfmradio.fr.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Quand la grotte raconte, en deuxième partie de ce MAG du pays Midi-Quercy, c'est 3 heures d'expérience en nature guidée par la voix des histoires. 8 rendez-vous nous seront proposés tout cet été pour donc écouter les contes préparés par Naomi Thiberguin et Marco Bénard. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Quand la grotte raconte sont donc des contes, une immersion en pleine nature. D'ailleurs, le rendez-vous est secret. Et donc, vous avez préparé des histoires. Vous avez préparé 3 heures de déambulation quand même.
3 heures de déambulation, on n'est quand même pas à bouger 3 heures debout sur ses pattes. Non, on a des moments aussi. On a environ, je pense, une heure et quart de balade, avec quelques petites ponctuations comptées. Et puis après, dans la grotte, on va pouvoir se poser un peu pour écouter à divers endroits de la grotte. Et tout ça, ça va prendre 3 heures en tout. Aller-retour.
Qu'est-ce qui se passe dans les grottes?
Les grottes sont habitées depuis longtemps. Par les animaux, par les humains aussi. Donc, il y a forcément des traces, même si elles sont immatérielles, et elles reviennent sous forme d'histoires, éventuellement.
Des histoires que vous avez écrites, vous, tous les deux?
Pas vraiment. Enfin, on n'a pas eu le même chemin tous les deux, mais on a été. Moi, j'étais chercher une légende, en fait, que j'étais trouvée chez les Amérindiens, mais qu'on retrouve dans plusieurs endroits du monde. Et à partir de là, j'ai tressé une histoire.
Comment est venue l'idée ?
Une expérience que j'ai vécue en automne dans la grotte en Dordogne, dans une grotte en Dordogne. Et je me suis retrouvée avec un groupe de personnes, et dans une grotte, il pleuvait dehors, on a allumé un feu, et puis je me suis mise à raconter des histoires, et tout d'un coup ça m'a paru comme une évidence, comme si j'avais fait ça toute ma vie, comme s'il y avait des souvenirs qui me remontaient, alors que j'avais jamais fait ça, en tout cas pas de... Je m'en rappelle pas avoir fait ça dans cette vie-ci, mais c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie, et c'était... Ouais, c'était vraiment très, je sais pas, c'est ça, une évidence, et puis beaucoup de plaisir, et du coup, quand je suis revenue dans le Tarn, j'en ai parlé à Marco, c'est ça. Et Marco, ça lui a plu, je crois.
C'est vrai que les salles des fêtes, c'est sympathique, hein. Les petits lieux, c'est sympathique, mais j'adore, et depuis toujours, déjà vivre dehors tant que possible, et compter dehors, c'est magnifique. Il se passe quelque chose d'autre. Avec, par exemple, la nuit du conte en Tarn-et-Garonne, tous les ans, on fait une nuit du conte qui est comme ça, dans un lieu de nature. Aimer les grottes, c'était un peu nouveau, et c'était tellement évident, comme dit Naomi, donc j'ai dit oui tout de suite pour essayer, ma foi, essayer. Et voilà, c'est un essai de faire résonner une parole comptée dans les grottes. Et aussi de faire... c'est ce qui a marqué, je ne sais pas, une immersion, non, ce n'est pas marqué, mais enfin, c'est un peu ça... on est trop dans nos écrans, et puis aussi dans nos idées, dans nos concepts, dans notre mental. Voilà, ça fait du bien. On s'immerge dans quelque chose de sensible, un paysage, une nature, un chemin qui nous parle. Nous, on a quelques petites histoires, mais la nature nous parle tout le long du chemin. Et puis après, on arrive dans une grotte, c'est la même chose. Il y a à la fois un émerveillement, un choc. Il y a tout un tas de choses qui se passent au contact des paysages. Et ça, c'est la première chose qu'on a voulu faire. Et on y rajoute notre parole, voilà, pour habiller le tout ensemble.
très concrètement, on a dit 3 heures d'expérience en nature. On part d'un sentier, on descend dans une grotte. Alors, les lieux sont mystérieux et c'est fait exprès. Mais je pense aux enfants, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Comment ça se passe logistiquement? Il faut rester debout pendant 3 heures et on ne peut pas s'asseoir dans une grotte, c'est mouillé, il faut venir avec des bottes. Comment ça se passe?
Alors, déjà, on a mis à partir de 10 ans, par rapport au temps de marche qui est quand même de 45 minutes, et effectivement, c'est un sentier qui est, ben, comment on peut dire, un peu accidenté, quoi. Il y a des rochers, ça peut glisser, donc effectivement, les personnes qui ont des soucis de genoux, enfin, en tout cas, qui pensent ne pas pouvoir tenir 45 minutes de marche, effectivement, c'est pas adapté. Mais après... on a des moments de pause et une fois qu'on est dans la grotte, nous, on a prévu de quoi rendre l'expérience agréable. Donc, il y aura des couvertures, il y aura des coussins pour que la personne puisse être dans les meilleures conditions pour écouter.
C'est allumer des flambeaux de ci, de là, faire de la musique aussi?
Un petit peu. Il faut savoir que les grottes sont habitées par des chauves-souris, donc on n'a pas le gros son, hein, on a quelques... gambardes, quelques flutiaux et quelques bougies, quelques petites lumières, mais voilà, pas plus.
Pour des petits groupes d'une douzaine de personnes, donc 8 rendez-vous en pointillé tout au long de l'été. Le prochain, c'est là, c'est le 21, le 27 juin, le 12 et le 25 juillet et le 20 et 24 septembre, donc pour ces 3 heures de balade comptée dans les sentiers et dans des grottes. Ça va rester mystérieux, on saura pas où on va.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est pas très loin,
oui.
Et que donc on va pas commencer par faire 3 heures de voiture. On est tout près dans le coin.
Oui, et d'ailleurs, dans les 3 heures, on a prévu le déplacement en voiture. Donc, il y a quand même 30 minutes, enfin un quart d'heure aller, un quart d'heure retour de trajet en voiture.
En partant
soit de Saint-Antonin. On a donné 2 points de rendez-vous, un à Saint-Antonin et un à Vaour, avec une possibilité de covoiturage pour limiter les frais et puis aussi ne pas ramener trop de voitures sur un parking privé.
C'est sur un tarif de 15 € par personne ou en réduit de 10 €. Où est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Comment on peut s'inscrire?
Sur Facebook, il y a Balade Comté, Grotte Saint-Antonin. Et là, en m'envoyant un message, moi je réponds dans les 2-3 jours. Quoi.
Allez, on se quitte en faisant briller les oreilles de ceux qui nous écoutent. Vous nous faites une toute petite rêverie.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit, je pense, qui m'est venue, moi, c'est que c'est aussi une entrée dans l'obscurité et que plus on va rentrer dans la grotte et plus on va aller vers le sombre. Et c'est aussi une expérience que d'être dans le noir et d'écouter une histoire dans le noir. C'est une expérience sensible qui est très vibrante. Voilà, c'est ça qui me vient, moi.
Quand la grotte raconte, rendez-vous donc pour cheminer sous les arbres, sur un sentier, sur le Cos d'Anglar et descendre donc dans le ventre de la terre sur vos histoires à tous les deux. Marco Bénard et Naémie Thiberguin, merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi.
Le mag du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h. Et en podcast sur le site cfmradio.fr. Oh,